Racines du ciel, une émission de Lily Anvar avec la participation de Frédéric Lenoir. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Thierry Beauchamp, avec aujourd'hui à la prise de son Pierre Monteil. Ce matin, nous allons parler d'éducation spirituelle des enfants à travers les histoires de la Bible et ce qu'on appelle en terre chrétienne l'histoire sainte. Et nous sommes pour cela en compagnie de Paul et Marc Amblard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Paul et Marc Amblard qui ont lancé un projet de Bible animée d'un côté et de livre audio d'autre part. Alors, Paul Amblard, vous êtes plutôt spécialiste de l'aspect visuel, puisque vous êtes historienne de l'art, spécialisée dans l'art du Moyen-Âge et la symbolique chrétienne que vous enseignez dans divers cadres. Mais vous êtes aussi écrivain, vous avez publié plusieurs ouvrages qui ont toujours un lien, en fait, avec l'histoire de cet art sacré qui vous est cher. On peut citer, par exemple, chez Flammarion, en 1998, Le pèlerinage de vie humaine, qui est une initiation au langage des enluminures médiévales. En 1999, La vie de Jésus paraît chez Fayard Le Pommier. En 2008, Un pèlerinage intérieur chez Albin Michel, ouvrage pour lequel on vous avait reçu d'ailleurs cette année-là, aux Racines du ciel. En 2010, paraît chez Diane de Sélier L'apocalypse de Saint Jean, illustré par la tapisserie d'Angers, dont vous avez assuré les commentaires iconographiques. Citons aussi votre dernier ouvrage, publié en 2015, Le chemin de croix de Jésus, aux éditions Artege, qui est une méditation sur la Passion. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler d'un aspect de votre travail qui concerne la mise à disposition pour les enfants, en fait, de toutes ces études, en fait, que vous avez faites. Et ce travail de mise à disposition, vous le faites donc avec votre époux, Marc Amblard, qui, lui, a fait des études d'audiovisuel. Et vous devenez producteur radio à RFI, donc vous êtes en fait un collègue, anciennement un collègue. Et parallèlement, vous avez travaillé en studio d'enregistrement. Et vous avez monté une société d'audiovisuel qui a produit des documentaires et des films pour les entreprises. Puis ensuite, vous avez travaillé dans la production de films d'animation. Alors, vous avez commencé dès 1994 à produire et réaliser une série de contes sonores pour adultes et enfants sur la vie des saints. Et c'est là que vous allez vous rejoindre. Vous avez créé en 2011 une société de production qui s'appelle Antelechi, une société de production audiovisuelle chrétienne qui, depuis 2013, réalise des dessins animés sur les histoires bibliques ou les personnages bibliques. C'est une série qui s'appelle La Bible animée et des livres CD sur la vie des saints en coédition avec les éditions Artege. Alors, après cette présentation quelque peu longue, et je m'en excuse auprès de nos auditeurs, je voudrais vous poser une première question à l'un et à l'autre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu l'idée de vous intéresser aux enfants et de vouloir transmettre, au fond, votre art et vos connaissances dans un cadre biblique à des enfants en particulier? Mais c'est vrai que les parents peuvent aussi écouter avec les enfants.
Au cours de mes conférences, qui sont basées sur l'image, et l'image du Moyen-Âge est une image apparemment très naïve, mais qui est porteuse d'un enseignement, d'une symbolique, et où chaque geste, chaque couleur va représenter un enseignement. Et un enseignement pour amener les gens à être mieux, à évoluer. Et au cours de ces conférences, les gens venaient me dire « Mais est-ce que je peux montrer ces images à des enfants ?» Et donc, en fait, on est venu un petit peu me chercher. Et puis, il y avait cet aspect de conteuse que je voulais développer. Et pourquoi ne pas revenir aux sources, aux racines, et raconter, essayer de conter la Bible aux enfants? Quand on est dans le domaine du conte, on est dans le domaine, vous savez, les contes de fées, par exemple, ne s'adressent pas qu'aux enfants. Et une parabole du Christ, par exemple, il n'y a rien de plus simple à saisir, mais rien de plus complexe, et c'est quelque chose qui s'adapte à chacun, aux enfants comme aux adultes. Et moi, mon idée, c'était aussi de revenir à ce mode de conte.
C'est-à-dire à cette idée de simplicité. Et pour vous, Marc Amblard, quelle était la motivation, à part le fait d'accompagner votre épouse et de la soutenir dans cette entreprise?
C'était un peu l'idée de la transmission.
Moi, j'avais une société, donc j'étais très pris. Mes collègues étaient aussi très pris, mes collègues chefs d'entreprise ou cadres dans les entreprises. Et en fait, en discutant avec eux, ils ne trouvaient pas de produits, de supports qui puissent leur permettre de transmettre une certaine spiritualité qu'ils avaient reçue de leurs parents. Ils avaient pas le temps en rentrant chez eux tard le soir, ils n'avaient pas tout à fait la tête à ça, et puis ils ne trouvaient pas en magasin des produits. Et comme à l'époque j'étais sur des séries de dessins animés, j'avais le savoir-faire, j'avais les installations, et on s'est dit avec Paul, ce serait peut-être pas mal qu'on fasse des produits courts qui plaisent aux enfants, qui soient modernes dans le traitement. Et puis on va bien voir, voilà, on va mettre ça à disposition et on va voir quelle va être la réponse des gens là-dessus.
Oui, parce que si j'ai bien compris, vous avez travaillé dans des, si j'ose appeler ça, dans des grosses productions en fait de dessins animés. Vous me disiez en préparant cette émission que, par exemple, vous êtes occupé des Tortues Ninja, ce qui est quand
oui,
même
j'ai eu la chance de travailler là-dessus.
Un gros succès commercial.
Oui, tout à fait. Et qui apprennent une rigueur. Je travaillais avec des superviseurs américains qui sont des gens qui m'ont beaucoup appris. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'artistique, ça se fait comme ça, il y a des règles, on les applique, c'était absolument passionnant.
Et alors, expliquez-moi comment vous travaillez sur cette question. C'est-à-dire, vous vous dites, voilà, j'ai envie de transmettre ces histoires bibliques. C'est vrai que les parents, vous venez de le dire, Marc Amblard, sont parfois un peu démunis à notre époque pour parler de ces questions à leurs enfants, parce qu'eux-mêmes n'ont pas forcément reçu cette culture biblique, qui est pourtant le fond de notre culture. Alors, comment vous choisissez les histoires de la Bible que vous voulez raconter, pourquoi, qu'est-ce qui dirige votre choix, et voilà, et comment vous commencez le travail, quelle est la perspective dans laquelle vous vous inscrivez pour commencer ce travail?
Alors, il faut revenir au départ. Qu'est-ce qu'on transmet quand on transmet la Bible? La Bible, comme diraient les Hébreux, c'est kadosh, c'est-à-dire c'est un texte vivant qui révèle le divin. Et à partir de ce moment-là, on n'est pas dans un livre fermé. Et c'est un aspect très important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à lire un texte, on peut le reprendre quelques mois plus tard, et suivant son évolution, on aura de nouvelles lueurs, on va le comprendre différemment. Alors, ça détourne un peu votre question, mais c'est très important parce que ce que l'on transmet, ça va être du spirituel. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'on n'est pas dans une volonté prosélyte, on ne veut pas convaincre et on ne veut certainement pas expliquer quoi que ce soit. On veut laisser ce texte ouvert avec ses interrogations, avec l'évolution des héros qui ne sont pas d'emblée des gens parfaits. Et c'est un aspect très important aussi pour les enfants, où on est quand même dans un monde où on leur impose dès le départ d'être des petits ministres avec un emploi du temps extraordinairement complet. Et aussi, on leur impose une sorte de perfection. Ils n'ont pas le choix. Et ces histoires bibliques sont passionnantes parce que ce sont des héros en devenir. Et l'être humain est un être en devenir. À partir du moment où on a cet aspect parental important, où on a le droit de faire des erreurs, et la Bible montre qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de bifurquer, alors c'est très libérateur. Et c'est cette libération-là, cette ouverture-là qu'on voulait montrer aussi.
Et alors, justement, est-ce que dans le travail artistique, parce que finalement c'est un travail artistique que vous faites, et l'un et l'autre, chacun dans son domaine, puisque si j'ai bien compris, Paul Amblard, vous vous occupez plutôt de l'écriture des scénarios ou de l'écriture des textes quand il s'agit de livres, et que Marc Amblard, vous vous occupez plutôt des aspects plus le son, l'animation à proprement parler, etc. Est-ce que ce travail finalement artistique que vous faites, il est différent quand il veut être porteur d'une spiritualité? Est-ce qu'on fait autrement la Bible animée que les Tortues Ninja, Marc Amblard, par exemple?
Ah oui. Alors, par exemple, pour l'animation, nous, on a une animation qui est assez simple, avec l'idée de ne pas tout montrer, qui est un peu l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui dans les films américains, notamment, par exemple, les films de super-héros, qui sont des films incroyables. On voit absolument tout, l'image est merveilleuse. L'enfant ne peut pas imaginer autre chose, il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il voit. C'est pour ça, nous, dans la Bible animée, quand on parle de Jonas, avec ce dessin très simple, en fait, on reste quand même dans une évocation. C'est-à-dire qu'on ne fiche pas l'imagination de l'enfant. Alors, au niveau de l'image, on a un dessin qui est très poétique et qui est fait par une dessinatrice, une jeune dessinatrice qui s'appelle Marie Videau. L'animation, on a quelqu'un de chez Walt Disney qui a rejoint l'équipe. Ça reste un petit peu dans l'esprit du papier découpé. C'est-à-dire que c'est quand même une animation fluide, mais encore une fois, qui laisse la porte ouverte.
Oui, c'est ça. Cette simplicité a quelque chose d'un peu féerique, en fait, j'ai remarqué.
Au niveau du son, je fais très attention à ce qu'on donne de la réalité à tout ça. Alors, ça commence par les ambiances sonores. Par exemple, sur le livre CD de Saint-François, on a été enregistré à Assise des ambiances sonores. Sur tous les dessins animés, je mets plus en avant les sons naturels qu'on le fait d'habitude dans les Tortues Ninja ou dans d'autres séries, avec une attention très particulière sur les bruitages qui sont à la fois ça et pas complètement ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée de l'enfant peut imaginer encore autre chose.
Et on parlait du spirituel tout à l'heure. Comment on raconte le spirituel ? En fait, on s'aperçoit que quand on s'adresse aux enfants, ce sacré que l'on amène, finalement, par le texte biblique, restaure une écoute intérieure. Et je dirais même ouvre une écoute intérieure que l'enfant, qu'on ne maîtrisait pas tout à fait, les adultes découvrent leur enfant. C'est-à-dire qu'ils découvrent l'aspect philosophique de l'enfant. Et au fond, moi, ça m'a fait réfléchir à une chose. C'est que quand on croit au spirituel, quand on base sa vie sur une vision verticale des choses et pas plafonnée au niveau horizontal, alors on s'aperçoit de l'ouverture dont on peut disposer et on s'aperçoit que l'enfant, finalement, est petit dans un corps petit, mais que l'esprit est adulte dans le corps de cet enfant. Et puis, moi, je pense aussi à un enfant, pas du tout avec un milieu familial, parce que ça, c'est important aussi. C'est qu'on est tous en recherche. Et en fait, la Bible ne s'adresse pas à des gens qui détiennent une vérité, mais à des gens qui recherchent une vérité et qui, au fur et à mesure d'une évolution, vont devenir de plus en plus vrais. Parce qu'il ne s'agit pas de détenir, hein, ni d'acquérir, mais au contraire de perdre un peu de cet égo. Mais en tout cas, dans une famille qui n'était pas du tout axée sur quoi que ce soit de religieux ou de spirituel, à partir du moment où on transmet ces histoires aux enfants, qui rentrent dans une symbolique, mais d'une façon très naturelle, parce que là, on s'aperçoit aussi qu'on est fait de ça et qu'il y a quelque chose à éveiller de ce côté-là. Eh bien, quand ils se retrouvent, pas en écoutant l'histoire sur le moment, mais quand ils se retrouvent confrontés à des difficultés dans leur quotidien, voire de grosses difficultés, un enfant malade, alors il y a tout ce terreau qui revient et qui peut aider l'enfant qui est une référence, qui est structurante au niveau de ce qu'il a, de son psychisme, tout bêtement.
Au fond, le texte, l'histoire, a une fonction opératoire. Elle fonctionne comme si on était anthropologiquement fait pour accueillir ce texte comme une leçon de vie, au-delà des questions de foi, de dogme ou d'appartenance religieuse.
Surtout, au-delà. Au-delà, c'est-à-dire que on est en plus à une époque où on voit le chaos que ça peut produire. Par contre, quand on est, alors c'est parce qu'on est dans un domaine symbolique. Ces histoires, alors vous voyez, il y a beaucoup de recherches en ce moment pour prouver que tel personnage de la Bible a existé. Alors on recherche, on va fouiller le sable, etc. D'accord, on peut creuser le sable et on peut creuser la terre, mais il faut aussi regarder vers le ciel. C'est-à-dire il faut incarner l'histoire, certes, c'est important, mais il faut aussi regarder vers le ciel. Et ces histoires, elles sont éminemment symboliques. Mmh. Et symbolique, ça veut dire que c'est agissant en nous et agissant à un niveau parfaitement qui peut agir dans notre subconscient et revenir à la surface suivant ce que l'on vit. Et vous savez, le symbole en grec, symboline, ça veut dire rassembler, réunir ce qui est divisé. Et c'est très fort. Ces textes sont là pour nous permettre une réunion, une union et finalement une paix en nous.
Et ce qui est intéressant dans ce travail que vous faites, c'est que, évidemment, quand on est adulte, on a une volonté d'aller vers cela, de réfléchir, etc. Alors que chez l'enfant, d'une certaine façon, quand on le nourrit comme il faut, on se rend compte qu'il est naturellement être de symbole, qu'il est naturellement attiré par cela et que pour lui, ce n'est pas une chose bizarre, ça ne demande pas beaucoup d'explications. Ça ne le surprend pas presque. Ça le nourrit, mais ça ne le surprend pas.
Il y a un langage tout à fait naturel qu'il comprend. Mais attention, il faut quand même éveiller l'enfant. C'est-à-dire que j'entends aussi parfois les parents se dire ben, c'est vrai, nous ne sommes pas dans une culture religieuse, mais mon enfant, quand il sera grand, aura le temps de choisir lui s'il veut avoir cette culture ou pas, s'il veut s'ouvrir à la spiritualité. Seulement, si on ne lui donne pas des occasions d'éveil, l'esprit va rester endormi. Et tout notre travail, et il est chaque jour difficile, c'est de réveiller cette spiritualité, cet esprit qui sommeille en nous et que l'on a trop tendance à oublier. En plus, il va prendre appui sur ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit de ses parents? Évidemment, c'est le quotidien, plus ou moins difficile, mais surtout cette vision horizontale des choses où finalement on est beaucoup dans la matière, mais on n'est pas ouvert sur autre chose. Sans porter de jugement, si on ne donne pas si on ne plante pas une graine dans cette terre enfantine, alors elle peut se réveiller évidemment à l'âge adulte, mais c'est dommage parce que l'enfant effectivement a une capacité à comprendre peut-être d'une façon beaucoup plus limpide qu'un adulte qui est encombré, beaucoup plus parasité par beaucoup de choses. L'enfant est émerveillé d'emblée. Mmh. Un adulte devra travailler pour retrouver un niveau d'émerveillement.
Oui, bien sûr. Et alors, en plus, ce qui est intéressant dans cette démarche, dans le fait de faire des dessins animés ou des livres audio, etc., c'est de l'associer évidemment au plaisir, parce que c'est vrai qu'il est parfois, si on leur donne un cours de catéchisme un peu sec, ça risque de leur créer plus d'allergie qu'autre chose aux questions spirituelles. Alors que là, Marc Amblard, justement, nous avons à notre disposition, à l'époque moderne, encore plus qu'avant, de toute une panoplie de moyens qui permettent d'en faire un plaisir, c'est-à-dire d'associer les questions spirituelles et même les questions d'initiation, de travail sur soi, et on va y revenir dans les premières histoires que vous venez de produire. Donc d'associer ces histoires qui parfois sont douloureuses, qui sont parfois terrifiantes, mais de les faire passer par des médias, en fait, qui sont une source de plaisir. Donc ce qui fait que l'enfant, eh bien, il ne s'allergisse pas, au contraire, il entre vraiment dans votre univers.
Absolument. Ben, on passe beaucoup de temps à ça, à ce que ce soit d'abord très lisible, et puis que ce soit agréable à écouter et aussi dans l'air du temps. C'est-à-dire que ce qu'on fait, en fait, a déjà été fait. On ne fait que refaire
bien
ce qui
sûr.
A été fait. Mais on est obligé d'utiliser c'est un plaisir aussi. Il faut utiliser les moyens d'aujourd'hui, les techniques d'aujourd'hui, les images d'aujourd'hui, sans céder à la mode, sans aller trop loin, avec toujours une certaine distance par rapport à ça. Et dans la réalisation aussi, ne pas être trop rapide, ne pas avoir un enchaînement de plans extrêmement, extrêmement nerveux, que l'enfant ait le temps de se poser, que le temps de la réflexion puisse commencer déjà à la vision du dessin animé. Et c'est tout un travail on fait ça avec toute l'équipe, avec toujours effectivement ce plaisir. Alors le plaisir, c'est déjà que les images soient belles, que techniquement tout soit parfait. Et puis, c'est des petits plaisirs qui sont des petites choses. On complexifie légèrement les choses de façon à ce que tout ne soit pas compris d'emblée, dès le début par l'enfant, ou tout ne soit pas appréhendé. Il y a des petites choses. Il va y avoir dans le dessin animé, une petite souris qui bouge dans un coin. Il va y avoir Jonas qui va perdre sa savate dans l'eau avant de se jeter à l'eau. Il y a plein de petits éléments comme ça qu'on peut découvrir au fur et à mesure de la vision et de l'audition de ce qu'on fait.
Oui, qui permettent à l'enfant de se connecter en réalité, de ne pas se sentir séparé de ce qui se passe.
Ça les attire.
Oui.
C'est les prendre par la main. avec des formes qu'ils conçoivent et qui les attirent. Voilà, c'est prendre l'enfant par son jeu, les faire jouer.
Oui,
aussi.
Alors, il faut que je vous avoue, c'est pas que les enfants qu'on prend par la main. Parce que moi, si je peux me permettre cette anecdote personnelle, je me suis régalée à faire regarder ou à lire ou à raconter toutes les histoires de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament à mes enfants. Et la première qui se régalait, c'était moi,
en fait.
Parce que c'est vrai que, évidemment, sous prétexte de transmission, nous aussi, quelque part, notre âme d'enfant est enchantée par ces histoires qui sont d'une profondeur sans fin, en réalité, Paul Ambla.
Oui, et vous dites quelque chose de très important. C'est que, encore une fois, c'est un texte vivant, la Bible. Ça veut dire que celui qui transmet est essentiel. Et en fait, il transmet quoi ? Il transmet sa propre personne. Et les histoires de la Bible, on le sait, ce sont des strates de génération en génération. Elles ont été transmises par les hommes. Ça passe par l'humain, hein. Et nous, on est vraiment excellent quand on donne de soi-même. Et alors le plaisir, ce plaisir de transmettre, l'enfant le capte. Et le plaisir de réaliser, le plaisir de travailler en équipe, parce que pour nous aussi, c'est une conversion progressive, puisqu'on rentre progressivement dans ces histoires de la Bible. On les comprend et on les comprend avec une équipe aussi, quand on réalise un dessin animé. Et ça, c'est passionnant.
Alors, quel est le choix que vous avez fait, Marc Amblard, pour les trois premiers qui sont sortis en fait en avril, les trois premiers DVD de la Bible animée qui sont sortis en avril? Et pourquoi, finalement, est-ce que c'est un choix aléatoire? C'est un choix réfléchi? C'est un choix...
Non, c'est pas un choix aléatoire. Au début, c'était... Bon, il y a quand même une réalité commerciale aussi. Moi, je suis chef d'entreprise et donc on voulait quand même des thèmes qui puissent donner envie d'acheter le DVD.
Bien sûr.
Donc des choses assez, des histoires de la Bible assez, assez connues. C'est pas la seule motivation, mais elle compte aussi.
Et alors,
aussi.
C'est lesquelles, les trois?
Alors, on a Noé. On a l'histoire de l'arche de Noé. On a David et Goliath. Donc ça, c'est extraordinaire. Et puis, on a Jonas. Et pour compléter le DVD, on a deux tout petits dessins animés, un sur l'Annonciation et l'autre sur la Nativité. Mmh. Et on a aussi, on a rajouté en bonus une application pour iPhone et iPad sur Jonas avec des jeux. C'est-à-dire que les enfants peuvent s'approprier d'histoires avec des jeux qui complètent le dessin animé.
Jetez-moi dans les eaux et vous serez sauvés.
Bravement, les matelots luttent contre les flots. Ils rament de toutes leurs forces pour rejoindre le rivage. Mais en vain. Alors, tristement, ils se résignent à jeter Jonas par-dessus bord. Aussitôt, la mer s'apaise. Jonas est dans l'eau. Que va-t-il faire perdu dans l'immensité de la mer?
Au secours! Oh Dieu! Aide-moi! Toi seul peux me sauver! Aide-moi! Aide-moi!
Mais personne ne répond à Jonas. Au lieu de cela, un grand, un énorme poisson apparaît devant lui sur les flots. Le poisson s'avance, ouvre une gueule immense et avale Jonas. Hé, Jonas, où es-tu?
Oh! Il fait noir! Que vais-je devenir dans le ventre de cette grosse baleine? Oh, personne ne me retrouvera ici. Je suis perdu. Je vais prier très fort le Seigneur. J'ai fui loin de lui, mais il se souviendra de moi. Espérons.
Alors, pendant trois jours, Jonas prie Dieu avec de belles paroles qui sortent tout droit de son cœur.
Dieu, je crie vers toi. De toi vient le salut, du fond des abîmes. Je t'appelle, Seigneur.
Dieu entend Jonas. Il commande au poisson de le faire sortir de son ventre. Il dit en langage de poisson : Allez, recrache Jonas. Il a un message à porter pour moi aux habitants de Ninive.
Recrache Jonas.
Aussitôt, le grand poisson obéit à Dieu et Jonas atterrit sur la terre ferme. Ouf !
Oh,
Oh, je suis libre. Merci, mon Dieu.
France Culture, les racines du ciel.
Sans tarder,
Jonas
se met en route pour faire la volonté du Seigneur. Il va à Ninive voir les méchants et, sans se décourager, il leur dit d'une voix forte
« Votre ville va être détruite. Je vous l'annonce au nom du Seigneur que je sers. »
Jonas pense que les méchants de Ninive ne vont pas l'écouter et passer près de lui en se moquant.
Alors, Paul Amblard, quelles sont les symboliques importantes, enfin, quelle est l'interprétation symbolique importante de cette histoire de Jonas ?
Alors, on a choisi Jonas justement aussi. D'abord, c'est une histoire, à part ce gros poisson, on ne connaît pas bien l'histoire de Jonas. Or, elle est extrêmement féconde. Féconde pour notre vie d'aujourd'hui, j'entends. Et par exemple, Jonas, au départ, je vous parlais de non-super-héros dans la Bible. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça nous prend... C'est vraiment un travail d'évolution, la Bible, qui redit sans cesse, finalement, la même chose, l'histoire de l'homme et de son évolution. Et Jonas, au départ, il reçoit un message qu'il doit porter dans une ville étrangère. La ville étrangère, c'est tout de l'inconnu, c'est ce qui lui fait peur, c'est ce qui nous fait peur, parce qu'on n'a pas envie de changer, on est bien installé dans son confort, et Jonas refuse sa mission, refuse de changer finalement, et refuse d'avancer.
Parce qu'il a peur en fait, hein. C'est vrai qu'il y a une réinsistance sur le fait que Jonas a peur, il a peur que les habitants de Ninive se retournent contre lui,
oui.
Il y a une vraie appréhension.
Oui, parce que Ninive représente l'étranger, et l'étranger fait peur, c'est l'étrange, c'est ce que l'on ne connaît pas, mais c'est l'évolution de toute vie, on est quand même sur un fil tendu, et il s'agit de garder l'équilibre. Et Jonas fuit. Et c'est tout à fait représentatif de nos attitudes d'aujourd'hui. On a tous la tentation de fuir quand on nous propose quelque chose qui nous effraie. Pourquoi ? Parce que c'est fantasmatique aussi. On projette des peurs qui n'existent pas, puisque la réalité n'est pas encore vécue. Et toute l'histoire de Jonas, ça va être d'apprendre à apprivoiser ces peurs-là. Alors il fuit, et il fuit sur un bateau pour être loin de Dieu, loin du divin. C'est comme s'il s'endormait à tout cet aspect-là de lui, qui lui demande de changer, qui lui demande d'avancer et d'aller vers lui-même, hein, comme on dit dans l'histoire d'Abraham. Et il est sur un bateau et il s'endort. Et donc, ça c'est extrêmement parlant tout de même, il est endormi. Et tout le travail, c'est de s'éveiller évidemment. Et pourtant, il est au fond du bateau, nous dit-on. Et tous les termes de la Bible sont des petites pierres, des codes. Et il est au fond du bateau, ça veut dire qu'il y a un travail de profondeur quand même qui se fait. Et il est prêt à s'éveiller. Et d'ailleurs, le capitaine du navire... qui subit une grave tempête, car les flots sont déchaînés, et les flots, vous savez, dans le Moyen-Âge insiste énormément sur les flots, c'est les flots de notre inconscient. La mer, tout ce qui est fluide représente notre inconscient, et là, l'inconscient de Jonas est une tempête, une énorme tempête, qui fait que le capitaine le réveille en lui disant « Toi, prie ton Dieu, nous ne pouvons rien. » Donc il y a un rappel, il y a un réveil de Jonas, et on conçoit bien que le capitaine, c'est comme sa conscience qui s'éveille, et qui est là, et Jonas va se sacrifier, Et c'est très... Alors là, l'enfant aime énormément parce que effectivement, on voit le personnage de Jonas rejeté par les marins dans les flots, et il y a sa sandale qui tombe. Et donc, il doit tout donner de lui-même. Il doit donner son habit, c'est-à-dire son corps et son esprit. Et il se retrouve dans le grand bain de la mer. Il se retrouve plongé dans les eaux de son inconscient. Et là, il va être happé par un gros poisson. Et ce gros poisson, évidemment, on va retrouver ça aussi dans Noé. C'est tout le principe d'une arche, c'est tout le principe d'une caverne, c'est tout le principe de l'introspection. qui est le début du travail et qui fait que Jonas va réfléchir dans les entrailles d'un poisson. Et ça.
Oui, et là, c'est très, tout ce que vous dites là me fait penser au fait que les enfants aiment aussi les choses qui leur font peur. Et en fait, ça fait peur, évidemment, de tomber au fond de la mer, d'aller dans le ventre du poisson. En même temps, ça fait peur, en même temps, ça fascine. Et je suppose que, moi, en tout cas, mes propres enfants, l'histoire de Jonas était une de leurs favorites parce que, de même qu'ils aiment quand on leur dit, oui, le loup est arrivé, ils se mettent à crier pour la centième fois, mais ils aiment se confronter à cette peur dont nous parle la Bible et qui est la nôtre, au fond.
Bien sûr. Et c'est même important qu'il y ait ces aspects-là. D'abord parce que toutes ces histoires symboliques et poétiques sont quand même pour se connecter au réel. Et ça, c'était très important. C'est que l'aspect poétique des choses va interroger la réalité. C'est très important. Au lieu de fuir, on est confronté au réel par le poétique, par le symbolique. Et par conséquent, ces entrailles de poisson, chose complètement extravagante si on interroge notre raison, sont tout à fait naturelles pour l'enfant qui rentre dans cette histoire et justement va se retrouver. Alors nous avons représenté justement Jonas dans les entrailles, des entrailles bien roses, qui fait que ça désacralise un petit peu ce moment-là, mais en même temps, ça permet à l'enfant de dire « oui, on joue à se faire peur ». Et c'est important, ça canalise une violence chez lui. On dit que dans les contes de fées, il y a toujours beaucoup de violence, oui, justement.
Et la peur d'être avalé, en l'occurrence, justement, la peur d'être...
Absolument. Et là, il voit quoi ? Que Jonas peut rester dans un ventre de poisson en retrouvant une paix, en retrouvant un centre et en priant, mais c'est tout le travail intérieur qui se fait dans ce poisson. Jusqu'au moment où Jonas est prêt et où le poisson va le... Alors la Bible dit le vomir, mais c'est comme un accouchement de lui-même et c'est ce qui arrive aussi à Noé. Et donc c'est extrêmement profond pour l'enfant aussi de voir que le poisson, ce gros poisson, après un travail, après un effort... Après un dépouillement, il y a quelque chose de l'ordre de la libération de ce poisson.
Oui, et après beaucoup de prières aussi. C'est vrai que je me souviens d'un extrait d'une œuvre de Rumi, qui est pourtant un poète soufi, et qui a priori n'est pas un commentateur de la Bible, mais néanmoins il parle de cet épisode de Jonas en disant « c'est un épisode qui nous apprend que la prière est libératrice ». Parce que c'est vrai que dans le ventre du poisson, Jonas... apprend aussi à être dans une sorte de dialogue intérieur avec son Seigneur. Donc c'est aussi une indication de la fécondité de la prière intérieure.
Oui, il retrouve le chemin du divin en lui, chose qu'il refusait au départ, puisqu'il voulait fuir loin de Dieu, loin du divin. Et là, il retrouve ce dialogue-là et qui est libérateur, puisque le poisson ne veut plus de lui. Donc quand le travail est fait, alors il y a une expression qui peut avoir lieu. C'est-à-dire on n'est plus dans quelque chose de l'ordre de l'impression, où on capte tout, où on absorbe. On est dans une société où on absorbe beaucoup les choses, où on demande, on a besoin de protection. Et là, il s'agit d'exprimer quelque chose, de donner. Et on s'aperçoit que ce don est libérateur. Et d'ailleurs, dès qu'il sort du poisson, Dieu lui dit « lève-toi ». Et il se lève. C'est comme si, auparavant, dans ce poisson, il était dans une situation d'infériorité, où là, il peut retrouver son axe, se redresser.
Et il va...
Il va à Ninive.
Voilà, il va à Ninive. Mais avant, il y a un petit épisode dont j'aimerais bien connaître la signification symbolique, parce que je me la suis toujours posée. Alors, je profite de votre présence pour me dire ce que c'est que cette affaire de l'arbre, c'est l'arbre de ricin, c'est cela?
Oui, le ricin, voilà. À la fin, oui. Mais c'est assez extraordinaire. Alors d'abord, Jonas va à Ninive et il fait finalement, il réalise la mission que lui avait confiée Dieu au départ.
Et qui était une mission d'ailleurs d'éveiller les autres. C'est sa mission. C'est une mission d'éveil et de transmission.
Oui, dans un pays étranger, voilà. Qui correspond à l'Irak d'aujourd'hui. Et donc, très étrangement, à sa grande surprise, les habitants de Ninive, qu'il pensait hostiles, violents, voire effectivement où il risquait la mort, à sa grande surprise, les habitants l'écoutent et même changent leur attitude. C'est-à-dire que Ninive représente tout ce qui est aussi désorienté en nous. Et donc, Jonas vient redonner aux habitants, à l'étranger, finalement tout ce qui est étranger en lui, il vient redonner le sens de cet Orient et de la bonne orientation de la vie. Et il est reçu. Il est reçu.
Vous êtes en train de nous dire qu'il nous manque un Jonas aujourd'hui pour apporter cette transmission à cette terre irakienne. Mais bon, ça, c'est une parenthèse.
Non, nous sommes, je pense qu'on est, nous sommes tous des Jonas.
Absolument.
Et nous sommes tous des Ninivites. Mmh. Et aussi, ces histoires de la Bible sont extraordinaires à ce niveau-là. C'est qu'on est tous les personnages et tous les végétaux. Et cet arbre ricin, le ricin dont vous parliez, alors à partir du moment où les habitants acceptent de changer leur orientation, Jonas, au lieu de se réjouir, a un sursaut d'orgueil. C'est-à-dire que il est enfermé dans ses pensées et dans ce qu'il avait projeté sur ses habitants, qui ne sont pas ce qu'il avait imaginé.
Qui ne sont pas aussi mauvais qu'il le croyait.
Et non.
Ça aussi, on peut en prendre de la
graine. N'est-ce pas? Et donc, ses habitants le déçoivent en quelque sorte. Et au lieu de se réjouir, il est en colère. Et sa colère lui donne un instant de surchauffe, c'est-à-dire que le soleil, tout d'un coup, est ardent. Sa tête fume, on pourrait dire. Il se construit une cabane, abri complètement sommaire, qui ne le protège en rien, puisque le soleil devient de plus en plus ardent. Et pourtant, à côté de lui, il y a cet arbre, le ricin, qui tout d'un coup va pousser. Et va pousser très très vite. Et c'est un arbre envoyé par Dieu, qui est un arbre de réconfort, qui est l'arbre de vie, qui est là, comme une échelle là dressée entre le ciel et la terre. Et Jonas, tout d'un coup, change son regard. Au lieu d'être tourné vers lui-même et son mécontentement, tout d'un coup, il va regarder l'arbre. Donc, il va retrouver une verticalité par cet arbre. Mais il y a une petite histoire avec ce ricin. C'est que dans la nuit, il devient sec. Il devient sec comme le cœur de Jonas, finalement. Et au matin, il est mort. Et Jonas s'apitoie sur lui-même. « Ah, mon bel arbre, j'ai perdu mon arbre. » Donc, il a perdu...
Ma protection, mon ombre, oui.
Sa protection, sa vie. Et Dieu lui dit « Ton arbre ne mourra pas. Je voulais simplement que tu comprennes pourquoi n'aurais-je pas eu pitié des habitants de Ninive qui se sont convertis, qui ont changé leur façon de vivre. » Et tu voulais que je les fasse périr. Et donc, effectivement, Jonas comprend.
Oui, c'est-à-dire, il lui dit, c'est ça l'idée, c'est qu'il lui dit, en fait, toi, tu t'apitoies sur un arbre, alors comment moi, je ne m'apitoierais pas sur ma créature, sur
Exactement.
Toutes ces créatures humaines que j'ai créées.
Sur des milliers d'hommes qui sont là et qui se sont convertis.
Et il n'y a pas de raison, évidemment, qu'ils ne reçoivent pas aussi le message divin. D'une certaine
voilà.
façon, et donc le message de l'éveil.
Oui, et ce ricin, il est vraiment un vrai ricin, est un arbre, étrangement, qui pousse extrêmement vite, effectivement. Il atteint 4 mètres en l'espace de très très peu de temps. Et donc nous avons travaillé sur le ricin, et le ricin qui est représenté dans Jonas, c'est le vrai ricin avec ses fleurs, très belles fleurs, un peu mauves.
Oui, alors oui, si j'ai bien compris, vous avez fait un double travail, c'est-à-dire à la fois un travail évidemment comme celui que vous venez de nous déployer, c'est-à-dire un travail sur la symbolique des textes, leur signification, même si vous ne donnez pas la signification, n'empêche que la manière dont vous racontez l'histoire est censée suggérer cette signification à l'enfant. Mais vous avez aussi travaillé de manière très érudite, et l'un et l'autre, pour essayer, dans la mesure du possible, de recréer ce que l'on sait, en tout cas, des éléments historiques, en fait, de ces époques anciennes ou des époques bibliques, bien qu'elles soient pas tout à fait définies, évidemment. Donc, comme cette histoire, d'être très précis sur
les
la
costumes,
manière,
sur, le,
costumes,
sur les décors,
sur la botanique.
Sur les reliefs, la couleur aussi des terres qu'on peut trouver là-bas, la couleur des costumes, les sandales aussi, les chiens.
Oui, alors les chiens, comme, vous m'avez dit, comment, parce que les chiens n'étaient pas les mêmes, c'était pas toujours exactement les mêmes espèces.
Là, on travaille sur Abraham, le chien d'Abraham, c'est un vrai chien qu'on pouvait trouver à l'époque. Voilà, on a...
Au premier siècle.
Oui. Oui, au premier siècle, en tout cas. Voilà.
Au premier siècle, oui.
Vous êtes allé aussi loin que vous pouviez aller.
Oui.
Et vous me donniez, justement, en préparant cette émission, Marc Amblard, vous me disiez que c'est pas juste pour le plaisir d'être précis que vous avez fait ça. C'est parce qu'il y a une démarche pédagogique dans le fait d'être précis qui est presque un rapport à la vérité que vous voulez établir avec les enfants.
Oui, on veut pas trahir. C'est-à-dire que si l'enfant va sur Wikipédia, il n'aura pas une information qui sera contraire à la nôtre. Bon, les enjeux sont pas énormes, hein. C'est une sandale, c'est un chien, c'est des costumes, mais c'est quand même très important. Quand on dessine une ville de l'époque, et ben c'est la ville de l'époque. Enfin, en tout cas, ce qu'on en sait. Donc il y a pas de trahison. On n'a pas essayé de travestir quelque chose. Comme on est resté aussi fidèle au texte biblique, on essaye d'être très fidèle aussi dans tous les accessoires et les décors.
Oui, parce que c'est vrai que sinon, si l'enfant à un moment se dit, si là, ce qu'ils m'ont dit, c'est n'importe quoi, alors ça
alors
jette le soupçon sur le reste, évidemment.
Absolument. Voilà.
Les enfants sont extrêmement sensibles
à
nos contradictions d'adultes,
Et c'est des très grosses déceptions. On ne s'en rend pas compte, mais ça peut être terrible.
Et d'ailleurs, une des questions d'enfants, c'est vrai. Parce que c'est important, on est dans le symbolique, certes, mais c'est important d'avoir une vraie incarnation au maximum de ce qu'on peut faire, évidemment. C'est-à-dire que les costumes, on est pétri de toutes ces images de péplum qui ont fait beaucoup de mal au niveau des réalités historiques
temps. De l'imaginaire, en fait, de notre imaginaire aussi, oui.
Oui, et puis, quand on travaille avec l'école biblique de Jérusalem, comme j'ai eu l'occasion de le faire, alors on s'aperçoit, par exemple, qu'au temps de Marie, les costumes des femmes étaient beaucoup plus sophistiqués que toutes les visions que l'on a dans les films où on voit des espèces de tuniques un peu informes. Là, il y avait des plissés sur les robes des premiers temps, et probablement aussi Marie portait des petits bracelets de verre. Donc ça donne une image totalement différente, et même des sons différents, parce que c'est vrai que quand une femme bouge avec des bijoux, c'est très différent. Ce sont des petits détails, mais très importants, parce que ça permet d'incarner une histoire.
Quand je vous écoute, j'ai l'impression je me dis, ça permet aussi d'entendre peut-être le tintement du féminin. On arrive à la fin de cette émission et on n'a pas eu le temps de développer donc le deuxième aspect de votre travail, qui sont donc ces CD qui racontent les histoires, alors des saints chrétiens. Mais peut-être en deux mots, juste en une minute, Paul Amblard, justement, comme il y a un livre CD qui est consacré à Sainte Thérèse des Lisieux et un qui est consacré à Marie, Mère de Dieu, justement, nous dire juste en un mot pourquoi vous avez voulu aussi continuer ce travail en parlant de l'histoire des saints. Qu'est-ce qu'ils ont d'exemplaire et en quoi ils peuvent servir aux enfants d'aujourd'hui?
Ben justement, ils sont exemplaires. Et ils sont exemplaires non pas parce qu'ils sont parfaits au départ, parce que Saint François, c'est un petit vendeur qui mène la joyeuse vie. Mmh. Il réveille tout le monde dans la nuit. Et puis, il va devenir un chevalier. Et puis, il va devenir un grand saint. Et c'est un chemin de transcendance. Et on en a besoin aujourd'hui, parce que cette verticalité des vies de saints sont structurantes pour l'enfant. Ça va inscrire quelque chose qui va structurer le psychisme de l'enfant. Et justement, il ne s'agissait pas de raconter des histoires toutes faites, de statues, mais de remontrer justement ce que l'on représentait au Moyen-Âge. On faisait participer les gens à ce qu'on appelait des mystères. Et la vie des saints, au Moyen-Âge, était aussi réputée que la Bible et le psautier.
Oui, bien sûr, on racontait ça. Dans toutes les familles, on racontait les histoires des saints et on s'en inspirait.
Oui, mais exactement comme on regardait une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il s'agissait de prendre appui sur une réalité qui était supérieure, peut-être, incarnée de façon humaine et qui permettait de développer, encore une fois, de s'appuyer pour développer une spiritualité.
Eh bien, merci vraiment à tous les deux, à la fois de ce travail que vous faites patiemment, et qui, j'espère, aura encore de très beaux jours devant lui, parce que Dieu sait que des histoires dans la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y en a. Je rappelle, Paul et Marc Amblard, que vous avez créé la maison de production Antelechi, avec un K, que l'on peut retrouver sur votre site antelechi.fr. Antelechi.fr. La semaine prochaine, je recevrai Bassarab Nicolescu, qui viendra nous parler de l'influence de l'école de Gurdjieff sur la vie intellectuelle au XXe siècle, et en particulier sur l'œuvre de René de Malle. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Leïli Anvar. Tout de suite, nous retrouvons Frédéric Lenoir pour Chemin de Sagesse.
Nous avons vu tout au long de ces chroniques sur la sagesse tout un certain nombre d'états d'esprit, d'attitudes, de comportements qui permettent de grandir dans la sagesse, en vue toujours évidemment de rechercher le bonheur ou la joie. Et je voudrais maintenant parler de ce qui pourrait être les faux amis de la sagesse. C'est-à-dire au fond, il y a également des attitudes qui, sous le couvert de la recherche de la sagesse, peuvent nuire en profondeur à ce qu'est véritablement cette quête de sagesse, à ce qu'est un bonheur profond et durable. Et la première chose, c'est finalement la recherche du bonheur à tout prix. Et c'est peut-être un des grands défauts de notre époque en Occident, et ça se généralise un peu dans le monde, c'est que le bonheur est un peu devenu une idéologie qu'il faut absolument réaliser, il faut toujours avoir l'air heureux, il faut être performant, et on met le bonheur dans la performance, j'y reviendrai. On est donc dans ce culte du bonheur qui est devenu la valeur suprême. Alors ça pose déjà un premier problème, j'en avais parlé tout au début de ces chroniques, c'est que le bonheur n'est pas nécessairement la valeur suprême. On peut tout à fait contester d'un point de vue philosophique et spirituel le fait de rechercher l'épanouissement sur Terre comme étant la chose la plus importante. J'avais vu que c'était effectivement une critique qu'adressait à la fois Socrate, Kant, Jésus. On peut trouver tout un certain nombre de grands philosophes et de grands sages qui considèrent que la recherche du bonheur n'est pas la chose la plus importante. Socrate met la justice comme valeur suprême, Jésus met l'amour, donc on peut très bien effectivement considérer qu'il y a d'autres valeurs et que le bonheur, on peut renoncer à être heureux parce qu'on considère qu'il est plus important de s'engager dans une cause qui va nous faire souffrir ou qui va nous amener des désagréments, mais que ce combat-là est plus essentiel que rechercher un épanouissement. Et puis, la deuxième chose, c'est que à trop vouloir rechercher le bonheur, on passe à côté du bonheur. C'est quelque chose d'assez classique qu'on peut observer, c'est que des gens obsédés par la recherche du bonheur, finalement, sont toujours insatisfaits. Parce que on n'est jamais pleinement heureux, on n'est jamais totalement heureux, définitivement heureux. Il y a toujours dans la vie des moments de tristesse, il y a toujours des hauts, des bas. Et le bonheur peut être un état d'esprit dans lequel, un état d'être, et un état d'esprit dans lequel on a une certaine sérénité, on a une certaine paix intérieure, un certain accord avec soi-même et avec le monde, qui fait qu'on peut traverser ces difficultés mieux que si on n'avait pas cet état-là. Et en même temps, il y aura toujours évidemment des difficultés. Et ceux qui mettent le bonheur comme un état d'effervescence permanente, où on serait tout le temps euphorique, se trompent. Et c'est tout à fait impossible. Alors, ou alors c'est artificiel, ou alors on s'effondre tôt ou tard parce que on s'aperçoit que ce bonheur-là est impossible à atteindre. Et d'ailleurs, l'un des inconvénients de ça, c'est que beaucoup de gens sont écrasés par cet impératif, cette injonction au bonheur. Aujourd'hui, si vous dites « non, je suis pas vraiment heureux » ou « c'est difficile », etc., ben, on se dit « oui, c'est un peu un loser ». Donc, le fait d'admettre ses difficultés, d'admettre qu'on ne va pas forcément bien, le fait d'admettre ses fragilités, le fait d'admettre qu'on traverse des fois des périodes difficiles, est quelque chose qui, socialement, n'est pas bien vu. Et donc, il y a une sorte d'injonction au bonheur qui fait que beaucoup d'individus sont écrasés par cette injonction Et ça va derrière un peu plus loin que le bonheur, c'est un peu la jonction à s'accomplir, à se réaliser, à donner tout ce qu'on réalisait, le meilleur de soi, et donc faire de sa vie, comme le dit Nietzsche, une œuvre d'art. Alors c'est très beau d'avoir cette intention, il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'écrasant. Il faut avoir toujours en vue que c'est un objectif qui sera peut-être jamais atteint, mais qui nous permet d'avancer dans une certaine direction, d'essayer de progresser. Moi, je trouve que c'est essentiel d'essayer de grandir et de progresser, mais sachant que voilà, on n'arrivera peut-être jamais à être un être humain parfaitement accompli et qu'il y aura toujours des hauts, des bas, des allers-retours, des moments où on peut régresser. Et donc, il y a des gens qui sont tellement écrasés par cette injonction à l'accomplissement, à la réalisation de soi et au bonheur, qu'ils en deviennent malades. Et ça s'appelle la dépression. La dépression vient beaucoup de cette injonction à s'accomplir, à réaliser sa vie, à être heureux. C'est ce qu'explique fort bien d'ailleurs Alan Ehrenberg, un historien de la psychiatrie, qui a bien montré que si la maladie psychique la plus importante à la fin du 19e siècle, c'était l'hystérie, 20e siècle, c'était la névrose, et la névrose entendue au sens freudien comme un conflit entre le moi, enfin le ça et le surmoi, nos pulsions, nos instincts, nos désirs, et puis la morale qu'on a intégrée. Aujourd'hui, Alan Ehrenberg nous dit la maladie de civilisation occidentale, c'est plus la névrose. D'abord parce qu'il n'y a plus de surmoi, c'est-à-dire que de plus en plus les gens ne sont pas, il n'y a plus une morale qui s'impose aux individus qui rentrent en conflit avec leurs désirs. C'est plutôt la dépression. Et la dépression, d'ailleurs, on pourrait le dire aussi, c'est lié à ce nouveau surmoi qui est l'injonction au bonheur. Parce que il y a cet impératif du bonheur et de la réalisation personnelle. Lorsqu'on ne l'atteint pas ou lorsqu'on voit que c'est trop difficile, trop inaccessible, eh ben on s'effondre et donc on tombe en dépression. Et j'ai souvent observé ça chez des jeunes qui voient qu'ils n'ont pas du tout les moyens d'atteindre l'idéal de leur vie, d'une vie qui serait parfaitement joyeuse, où ils auraient à la fois un épanouissement qui passe aussi malheureusement beaucoup par le matériel. Et lorsqu'ils ne peuvent pas avoir ça, ben finalement ils s'effondrent et ils se rendent compte qu'ils partent dans des fuites. On se rend compte qu'ils partent dans des fuites comme la drogue ou l'alcool, ce qui est un moyen effectivement de montrer une défaite face à une injonction qui était trop lourde. C'est pour ça qu'il me semble vraiment important de bien démasquer cette quête du bonheur à tout prix, de l'accomplissement à tout prix, pour ne pas justement partir dans toutes ces dérives qui sont très fortes à notre époque. Et autant je défends l'idée de bonheur, autant contre d'ailleurs tout un certain nombre de philosophes contemporains qui ne croient absolument pas au bonheur. Je crois au bonheur, je crois à la sagesse, comme les anciens. Comme les bouddhistes, comme les taoïstes, c'est-à-dire à la possibilité de créer un état d'être de satisfaction globale et durable, mais en même temps, ça ne doit pas être une obsession, ça ne doit pas être une injonction, et ça se construit progressivement à travers des choix de vie et avec toute l'humilité qu'on doit avoir par rapport à soi-même pour accepter aussi ses faiblesses et ses fragilités.
Je vous rappelle que vous pouvez podcaster cette émission pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours sur notre site. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture. Excellent dimanche à tous.